Audiolib présente Paper Money de Ken Follett, traduit de l'anglais par Viviane Mikhalkov, lu par Philippe Pierrard. Introduction. De tous mes livres boudés par le public, Paper Money est à mon sens le meilleur. Je l'ai écrit en 1976, juste avant L'arme à l'œil, et publié sous le pseudonyme de Zachary Stone, tout comme le scandale Modigliani. Ces deux livres partagent en effet la caractéristique de ne pas avoir de héros central, mais une multitude de personnages dont les histoires se déroulent en parallèle jusqu'au paroxysme final. Ici, cependant, les liens entre les différents personnages relèvent moins du hasard que dans les deux autres romans. Cela tient au fait que je tenais à démontrer les interactions entre le crime, la haute finance et le journalisme, et plus particulièrement, comment ces trois secteurs reposent sur un socle commun de corruption. Comparé au scandale Modigliani qui l'a directement précédé, Paper Money s'achève sur une note plutôt sombre, presque tragique. Mais c'est surtout en rapprochant ce roman de L'arme à l'œil qu'on en apprend le plus. Au lecteur qui préfère ne pas connaître les ficelles d'une intrigue avant de lire un livre, je conseillerais de passer directement au chapitre 1. La trame, qui a servi de base à la construction de Paper Money, est sans nul doute la plus élaborée, la plus soignée de ma carrière d'écrivain à l'époque. Cela dit, l'ingéniosité de l'intrigue ne suffit pas à faire d'un roman un succès commercial, et les ventes modérées de ce livre au moment de sa parution m'ont d'ailleurs enseigné qu'une telle complexité venait plus flatter l'auteur que satisfaire le lecteur. La structure de L'arme à l'œil, d'une simplicité biblique, pourrait se résumer en trois paragraphes. En l'occurrence, ce que j'ai pris pour point de départ quand je me suis lancé dans la rédaction du roman. Les personnages principaux ne sont pas plus de trois ou quatre, alors qu'on en compte bien une douzaine dans Paper Money. Malgré une trame narrative sophistiquée, ce récit est deux fois plus court que le scandale Modigliani. Il est vrai que j'ai tendance à être trop concis dans mon travail d'écriture. C'est un penchant contre lequel je ne cesse de lutter. Ainsi, dans Paper Money, le style reste encore très dépouillé et les nombreux personnages y sont seulement esquissés. Il leur manque peut-être une certaine profondeur et toute la palette d'émotions qu'on attend d'un best-seller. Cependant, la force de Paper Money se trouve précisément dans sa forme condensée. L'action se déroule en effet au cours d'une seule et même journée dans la vie d'un quotidien du soir londonien. J'ai personnellement collaboré à un journal de ce type entre 1973 et 1974. Heure par heure, chaque chapitre retrace en trois ou quatre scènes à la fois ce qui se passe à la rédaction du journal et les différents événements qui seront ou non repris dans la dernière édition. La structure de L'arme à l'œil suit, elle, un schéma plus rigide encore puisqu'elle se divise en six parties de six chapitres chacune, sauf la dernière qui en compte sept. Le premier chapitre est toujours consacré à l'espion, le deuxième à ceux qui le traquent, et ainsi de suite jusqu'au sixième chapitre, où les précédents événements sont repris et développés sous leur angle international et militaire. À mon sens, la récurrence d'une partie à l'autre de cette alternance rythme le récit et donne au lecteur le sentiment d'une intrigue bien ficelée, d'autant que cette symétrie passe inaperçue. À ma connaissance, en tout cas, personne ne l'a jamais relevé. Un autre point commun que partagent Paper Money et L'arme à l'œil réside dans l'abondance de personnages secondaires plutôt réussis, tantôt truands, voleurs ou gamins attardés, tantôt prostituées, épouses de la classe ouvrière ou vieillards esseulés. Cette abondance